Depuis Saint-Lary-Soulan, nous prenons la direction de la vallée du Riomajou, un territoire qui s'étend sur 14 km tout au long de la Neste de Riomajou. Nous arrivons en voiture jusqu'au parking de Frédancon à 1380 mètres d'altitude et déjà dès l'aurore, il y a de l'animation. Les premiers randonneurs partent à l'assaut de l'un ou l'autre des grands sommets. Il faut dire que la vallée du Riomajou est le point de départ de quelques pics avoisinant les 3000 mètres, le pic de Berdalade, le pic de Batoua ou le port d'Ourtissé. Tout pour ne citer que. Non loin de là, quelques vacanciers s'éveillent dans un cadre bucolique. Ils ont campé ou bivouaqué pour ne rien manquer de l'authenticité du lieu. Mais justement, pour que le Riomajou demeure cet écrin tranquille, il y a quelques règles à respecter et surtout du bon sens à observer. Mathieu, le garde champêtre de Saint-Lary, est là pour ça. Dès le matin, il est présent pour sensibiliser le public.
Donc bonjour, c'est Mathieu Lognos. Je suis garde champêtre sur la commune de Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est un service de police rurale. On est chargé de toute la sécurité, surveillance des espaces naturels des communes. En fait, on a un métier qui correspond à la police municipale et en plus de ça, on a tout le volet environnement. Donc, la commune de Saint-Lary est très riche en espaces naturels. Déjà, on a un petit village de montagne très caractéristique, très atypique. Et en plus de ça, on a des sites naturels remarquables. Donc la vallée du Riomajou en fait partie. On a aussi le col du Porté et on a aussi des terrains qui vont jusqu'à la réserve naturelle nationale du Néouviel, qui est un joyau des Pyrénées. Donc la vallée du Riomajou, c'est un site naturel qui est classé. Donc ça veut dire que c'est un site qui est protégé par l'État, où on a quelques missions de surveillance et de sécurisation du secteur, c'est-à-dire on va travailler beaucoup sur la prévention, sur l'encadrement de la fréquentation, on va essayer de renseigner les gens au maximum, de veiller au bon respect des règles, donc règles de bon usage en montagne et en forêt, hein, de savoir renseigner les gens sur les itinéraires, de faire attention au feu, de maintenir les chiens en laisse, puisque sur la commune de Saint-Lary, les chiens sont autorisés en laisse sur certains secteurs. Donc voilà, pour concilier un peu tout ça avec aussi du travail du pastoralisme, les bergers en altitude, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde s'entende et profite de cet espace naturel. Donc la caractéristique du Riomajou, c'est que c'est très accessible, vous l'avez dit, on a une petite route de montagne qui accède avec des grands parkings au sommet qui sont aménagés pour optimiser le stationnement. On y travaille encore aujourd'hui. Et ensuite, à partir de là, on a plusieurs sentiers de randonnée ouverts au public qui vont du sentier très facile à du sentier un peu plus expérimenté, qui va de la moyenne montagne à la haute montagne. Donc on a vraiment plusieurs types de publics différents. On a la possibilité de bivouaquer sur place. On a deux aires de bivouac autorisées. Donc voilà, il faut faire dans les règles, mais on peut passer la nuit au Riomajou. Pour les plus frileux, il y a aussi une hospice, l'hospice du Riomajou, qui est à la fois un restaurant et un refuge de montagne. Donc là aussi, possibilité de dormir sur place.
Alors votre travail à vous, c'est d'intervenir auprès de toutes ces personnes qui passent, qui se promènent, qui éventuellement passent la nuit, pour leur rappeler les règles, le fonctionnement, les choses à pas faire, les bons gestes. C'est ça votre rôle de garde champêtre ?
Tout à fait, on est de la police de proximité, c'est quelque chose qui est très important, on garde le contact avec les gens, on n'est pas là que pour de la répression. Malheureusement, aujourd'hui, au vu de la fréquentation, on a quand même beaucoup de missions de surveillance pour rappeler les règles de bon sens. Vous l'avez dit, on est en forêt, donc notamment les feux en cette période, tout usage du feu est interdit, la préfecture l'a encore rappelé en prenant des arrêtés précisément sur cette thématique-là. Donc on veille à la bonne circulation de l'information, à la sensibilisation des gens, et le cas échéant, on peut aller jusqu'à de la verbalisation si besoin.
C'est combien de personnes qui passent au cours d'une saison normale en vallée du Riomajou ?
Alors, il faudra se rapprocher de l'office de tourisme pour ça. Ils ont les chiffres presque exacts, on va dire. Nous, moi, je vais réfléchir en termes de véhicules, puisqu'on est là pour vérifier le stationnement des véhicules, qu'on n'ait pas des véhicules éparpillés un peu partout en montagne. Donc, tout est concentré sur les parkings. En pleine saison, plein été, c'est plusieurs centaines de véhicules au Riomajou. Donc, ça peut aller de 200 à cette période. Fin juillet, on est sur 200, 250 véhicules.
Par jour ?
Par jour, évidemment. Et on peut monter à plus de 400, voire 500, à la barre des 500 véhicules sur la journée en été. Donc, il faut multiplier ça par le nombre d'occupants du véhicule.
L'hiver, la vallée est inaccessible ?
Tout à fait, on a une fermeture hivernale parce qu'on est sur une vallée qui est très escarpée, donc avec des risques d'avalanche, une route qui est très 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 peu au soleil pour ne pas dire jamais, donc qui ne dégèle quasiment jamais. Donc le risque est trop grand, donc la fermeture s'effectue au niveau de la commune de Tramezaig, bien en aval de la vallée pour interdire le passage des véhicules et des touristes.
Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Alors après, vous avez évoqué l'arrêté préfectoral qui est en cours pour cet été 2026, on va y revenir, mais en temps normal, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Est-ce que les personnes qui débarquent ici en vallée du Riomajou, qui sont en vacances, qui ont peut-être un peu envie de lâcher sur les règles, est-ce qu'elles sont à l'écoute et attentives quand même à ce que vous leur transmettez ?
Alors la particularité des zones en montagne, c'est que les gens qui viennent sont déjà des gens avertis. On n'a pas du tout public. On a quand même un public qui vient pour randonner, qui vient pour chercher des espaces naturels et se raccrocher un peu à la nature. Donc on n'a pas forcément des mêmes problématiques qu'on va avoir en milieu littoral où on est sur une accessibilité un peu plus large. peu plus compliqué, tout est relatif, on n'a pas de tâches difficiles, mais ça va être plus les chiens qui sont problématiques par rapport à la cohabitation avec les éleveurs, les troupeaux, etc., où les gens ont du mal à attacher leurs chiens quand ils sont dans un espace naturel, parce que même pour l'animal lui-même, c'est sûr qu'il est plus heureux quand il est détaché, mais un chien ne dérangera pas forcément, mais quand on a 30, 40, 50 chiens par demi-journée, voire plus, des règles font qu'on est obligé d'attacher le chien, et c'est vrai que c'est peut-être la chose que les gens ont le plus de mal à accepter. Tout ce qui est bivouac, regrouper des tentes dans un endroit pour éviter de les avoir éparpillées, ça aussi c'est un peu délicat pour certaines personnes parce que ce qu'ils recherchent c'est la tranquillité, l'isolement, et donc quand on les parque entre guillemets ensemble, c'est vrai que...
Oui, ils ne viennent pas pour faire du camping, ils veulent être un petit peu dans leur coin, rien que pour dans leur bulle quoi.
Voilà, et la notion de camping est importante et intéressante parce que là on est vraiment sur du bivouac, on reste en zone de montagne, je le dis.
C'est quoi exactement la différence justement ?
Donc la différence elle est... difficile à expliquer si on se raccorde au texte. Ceci dit, on a une différence qui est notable, c'est que le bivouac, c'est une installation minime pour passer une à deux nuits. La particularité du bivouac, c'est qu'il doit être monté à partir de 19h et démonté à 29h du matin. En camping, vous laissez votre tente toute la journée, vous allez à la piscine, vous revenez. Ici, c'est pas possible. Tous les matins, il faut ranger son matériel et le site redevient naturel. La deuxième particularité, c'est que c'est l'installation minime. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'après, c'est un peu... On voit au cas par cas, mais ce n'est pas d'installation de table, de chaises, de auvent, on n'a pas de musique, on est vraiment sur une installation minime pour passer une nuit. C'est des activités qui sont encadrées parce que maintenant on a beaucoup de fréquentation, donc on ne peut pas laisser les gens s'installer n'importe où. Pour la simple et bonne raison qu'en cas de problème, on sera incapable de dire où sont les personnes à secourir. Si tout le monde s'isole en forêt, on n'aura pas l'information, on ne pourra peut-être pas venir en aide aux gens qui en auront besoin. Donc il y a des zones qui ont été spécifiquement délimitées pour accueillir les tentes, des zones qui ont été délimitées pour accueillir les véhicules aménagés. Et comme ça, on concentre tout le monde sur des secteurs plus ou moins grands. On essaie de travailler à ce que ça soit cohérent pour au moins, en cas de problème, savoir où intervenir et savoir où aider les personnes.
Alors, vous avez évoqué donc tout à l'heure l'arrêté du préfet, l'arrêté préfectoral qui est en cours pour cet été 2026 parce que c'est un été particulier, particulièrement chaud, avec un risque d'incendie élevé. Et on voit ce qui se passe en France du côté des Landes. La crainte, c'est que ça puisse arriver ici, dans la vallée du Rio Majou.
Alors oui, on est sur un milieu très boisé. Toutes les prairies, on le voit autour de nous, sont déjà bien jaunes. Alors on a eu un orage qui est passé, mais qui n'a pas forcément suffisamment humidifié la zone. Donc on est sur des couloirs un peu venteux, donc la végétation est très sèche. On voit que les arbres commencent à changer un peu de couleur. On est fin juillet, donc c'est peut-être un petit peu prématuré pour la saison. La difficulté, c'est que la vallée du Rio Majou, pour en avoir discuté avec le chef de centre de Saint-Lary il n'y a pas très longtemps, c'est un secteur aussi qui est préservé des incendies. Il faut savoir que le dernier gros incendie dans le Rio Majou, c'est il y a peut-être plus d'une trentaine d'années. On n'a même pas retrouvé la date encore. Donc c'est une forêt qui est...
Pardon, mais comment se fait-il ? Qu'est-ce qui explique qu'elle a été préservée ? Est-ce que c'est parce que l'humain était plus attentif ou il y a des éléments naturels qui font que cette vallée est un peu préservée ?
Alors, on n'a pas de recette miracle, sinon ça se saurait. La météo y est pour quelque chose, puisque ces dernières années, c'est vrai que les éleveurs, etc., constatent, et les habitués des vallées constatent que la végétation est plus sèche plus tôt, chose qui n'arrivait pas avant. On a des foins qui repoussent moins vite, moins denses, et on a des températures un peu plus chaudes. Donc, avant, on avait peut-être un peu plus de passage. Moi, j'ai pas l'expérience, l'historique de ça, mais on avait peut-être plus de passage, l'orage, on avait peut-être une vallée plus fraîche. Et surtout, on avait moins de fréquentation. Là, on a une fréquentation qui explose, notamment depuis le Covid, où les Français ont retrouvé la nature, ont retrouvé le plaisir en nature. Donc, on a beaucoup de fréquentation et de plus en plus. Donc, moins de monde et des conditions moins sèches, forcément moins de risque d'incendie.
Donc, cet arrêté du préfet, justement, il vise à limiter l'accès dans la vallée du Rio Majou pour limiter les risques.
Alors la préfecture insiste sur le fait de déconseiller l'accès aux massifs forestiers. C'est difficile de trancher sur interdire ou autoriser un accès, mais voilà, en tout cas le message est clair, c'est déconseiller l'accès. Donc nous, au niveau des messages qu'on transmet à la population, c'est d'essayer de privilégier les endroits en estive moins densément forestiers pour plus de sécurité. La difficulté, c'est pas forcément, on part pas du principe que les gens vont mettre le feu, même si plus de 90% des feux sont d'origine humaine, c'est surtout... Si les gens se regroupent en masse au Rio Majou, en plein été, si on a des milliers de personnes et qu'on a un incendie qui se déclenche, les moyens mis en œuvre pour secourir ces personnes vont être démesurés, vont être énormes. Donc, moins on a de personnes à secourir et à préserver, plus simples seront les missions de secours. Voilà, alors là, il y a des plans de sauvetage et de secours qui sont étudiés avec des points de rassemblement, etc. On était encore en réunion ce matin pour réfléchir à ce sujet-là. L'avantage du Rio Majou, c'est quand même, il y a une majorité du public qui se retrouve sur la piste la plus simple, celle qui va vers l'hospice. Donc on a 80% ou 90% du public qui est regroupé sur cette zone-là, sur ce linéaire-là. Le reste, on est sur du sentier d'altitude, donc on est sur des personnes aguerries, en général en capacité physique assez bonne. Donc c'est pas eux qui vont nous inquiéter le plus. Si eux, la vallée prend feu, ils sont capables de traverser l'école et de se mettre en sécurité, mais c'est plus voilà, la masse de personnes à secourir. Et en complément, au niveau de l'arrêté préfectoral qui a été pris, en plus de déconseiller l'accès au massif forestier, il y a plusieurs autres mesures. Donc l'usage du feu sous toutes ses formes est interdit, que ce soit la simple cigarette, de porter d'un briquet, etc. On va très loin dans les prescriptions.
Donc pas de barbecue non plus. Hein.
Donc pas de barbecue. On a un barbecue qui est maçonné sur le site, qui est sécurisé. Donc même celui-ci est interdit. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque est trop élevé. Il y a trop de monde, donc on préfère tout réglementé pour éviter les problèmes. La circulation des véhicules également est interdite dans tous les massifs forestiers en dehors des routes goudronnées.
Donc là, on ne peut pas monter au Rio Majou, à l'office du Rio Majou, au refuge du Rio Majou en voiture.
Non, voilà. Habituellement, la circulation se fait jusqu'à midi. Après, on a une route qui se ferme pour devenir piétonne et reprendre en fin de soirée. Cette année, avec cet arrêté-là, la circulation des véhicules est interdite. Donc, on peut accéder au parking de Frédancon et après, on peut faire une petite balade de 4 km à pied jusqu'à l'hospice.
Et ces règles-là, elles sont en vigueur jusqu'à quand ?
Pour l'instant, elles ont été prises. L'arrêté a été publié le 24 juillet, mise en vigueur à partir du lundi 27. La date de fin, c'est la météo qui décidera.
Les gens comprennent ?
La majorité, oui. Malheureusement, ce qui se passe dans les Landes suffit comme exemple.
J'ai une dernière question un peu plus personnelle, Mathieu. D'abord, depuis combien de temps vous faites ce travail ici en vallée de Rumajou ? Puis, pourquoi vous faites ce métier ?
Alors, il faut partir un peu plus loin parce que je ne suis pas originaire de la vallée du Rumajou, pas originaire des Pyrénées. Moi, j'ai chiné sur le bord de mer, sur la commune de Béziers. J'ai travaillé au Cap d'Agde pendant très longtemps sur des espaces naturels protégés. Je travaille dans des réserves naturelles où j'ai un peu développé ce côté protection environnement et voilà, police de l'environnement. Les choses de la vie font qu'on est arrivé dans les Pyrénées sur un très beau cadre où on a des sites naturels remarquables. Il y a plusieurs réserves naturelles. On a le parc national des Pyrénées également. Donc, en termes de protection de l'environnement, on est quand même sur des niveaux assez élevés. J'ai eu la chance de travailler au parc national pendant deux saisons et de continuer à préserver ces sites, à connaître ces territoires. Et de fil en aiguille, Saint-Lary a ouvert un poste de garde champêtre qui me convenait tout à fait, puisque c'est quand même un métier plaisant et passion de travailler dans l'environnement et de veiller à ce que tout se passe bien. Et puis le cadre est magnifique. Là, vous n'avez que le son, mais les images autour sont idylliques.
Voilà, donc il faudra venir visiter le Rio Majou peut-être quand la météo sera plus favorable, voilà, et permettra à plus de visiteurs, de randonneurs de venir ici. Merci beaucoup Mathieu, on vous laisse poursuivre.
Si je peux compléter un petit message de prévention, voilà, c'est très bien de vous rendre sur les sites naturels. Passez quand même par les offices de tourisme, renseignez-vous avant de venir en montagne, qu'il y ait des cartes avec vous, pas seulement des téléphones, parce qu'un téléphone c'est très bien, mais si tombe par terre et qu'on casse l'écran, on n'a plus de cartes. Donc voilà, prenez un maximum de précautions, renseignez-vous sur les itinéraires, renseignez-vous sur l'état de la végétation, le risque incendie, le risque avalanche en hiver. Passez vraiment par les offices, c'est des relayeurs d'informations très importants. Vous avez les maisons des parcs nationaux, vous avez les mairies qui peuvent vous renseigner là-dessus. Comme ça, au moins vous arrivez, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous faites.
Voilà, vous avez raison de le dire parce qu'en plus à Saint-Lary, il y a un office de tourisme avec une équipe d'accueil vraiment au top, au point. Et donc ça vaut le coup de demander conseil avant de partir se promener. Merci beaucoup Mathieu, bonne journée.
Merci à vous, à très bientôt.
Je quitte notre garde champêtre quand un groupe d'enfants, canne à pêche à la main, attire mon attention. Ils suivent un certain Damien, casquette bien vissée sur la tête, sourire jusqu'aux oreilles. Lui, c'est le garde-pêche et il est en pleine séance d'initiation de pêche à la truite. C'est le deuxième volet de cette escapade en vallée du Rio Majou.
Elle est sur le caillou, sur l'enrochement. Tu la vois là-bas ? Vous approchez pas les enfants parce que je vous ai dit quoi ? Truite vue, truite foutue. Hein ?
Viens avec moi.
Avance-toi. Tu la vois pas la truite là-bas ? Elle est cachée sur le rocher. Alors regarde, on va prendre le fil dans la main. On prend pas le moulinet, on prend le fil dans la main. D'accord ? Là, on va lancer en amont. Hop, elle remonte, elle nous a vu. On va voir si elle n'a pas une autre. Celle-là, elle nous a vu. Je te rappelle la truite vue. Hop, une touche. T'as senti la touche ou pas ?
Ouais.
Non, parce que tu n'avais pas le fil dans la main. Il te faut prendre le fil dans la main. Celle-là, en plus, elle était jolie comme truite. Allez, on va réessayer. Hop là. Un peu court. Là, t'as le fil dans la main ?
Oui.
C'est bon, alors. On peut y aller.
Cette voix remplie de soleil que vous entendez, c'est celle de Damien Toussaint qui se promène, si l'on peut dire, sur les abords de la neste de Rio Majou.
Bonjour.
Vous êtes guide de pêche ici, alors aujourd'hui, dans la vallée du Rio Majou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez exactement au public que vous recevez ?
Alors aujourd'hui, on a un atelier pêche au toc, pêche à la truite sur la neige du Rimajou. Ça, c'est en partenariat avec l'office de tourisme, on le fait l'été. Là, c'est des enfants qui ont entre 4 et 8 ans, en l'occurrence. On leur apprend toutes les bonnes pratiques pour pêcher la truite. On leur montre les nœuds, où sont cachés les poissons, comment les pêcher, la gestuelle. Le but, c'est vraiment de leur faire découvrir la pêche à la truite.
Et ça marche ? Il y a un public pour ça aujourd'hui, en 2026 ?
Ouais, on a beaucoup de jeunes passionnés qui d'ailleurs de plus en plus pratiquent la pêche en no-kill, donc ils viennent juste pour pêcher pour le plaisir et non pas, enfin voilà, c'est pas pour tuer le poisson, c'est vraiment pour remettre les poissons en l'eau et juste se faire plaisir de pêcher.
Donc on pêche pas pour manger le poisson ?
Pas forcément, il y en a qui le font.
Et bah vous le faites ?
Moi je le fais pas forcément non plus. C'est mes copines, les truites, non, je les remets à l'eau, j'en garde par moment, mais voilà, c'est très peu par rapport à tout ce qu'on attrape. Le but c'est se faire plaisir, d'attraper un poisson et le remettre dans de bonnes conditions. Donc là, aux enfants, on leur montre comment pratiquer la pêche en no-kill, en son simple, sans ardillon, mettre le poisson dans l'épuisette, se mouiller les mains avant de le toucher. En l'occurrence, là, comme il fait très chaud, éviter les manipulations hors de l'eau. Voilà, on leur montre les bonnes pratiques du no-kill.
C'est un sport, la pêche ?
Oui, parce qu'on s'attend à rester assis sur un fauteuil et attendre que le bouchon coule avec un verre à la main, et pas du tout. Là, d'ailleurs, les parents étaient assez étonnés. On part d'un point et on monte à un autre point, donc des fois, ça arrive qu'on monte sur 1, 2, 3, 4 km et on pêche en remontant la rivière. Le but, c'est vraiment, c'est une traque. Hein. On vient chercher les poissons dans les trous d'eau, derrière les cailloux, dans les fosses, et c'est vraiment une traque. Hein. C'est de la chasse. C'est pas du tout une pêche d'attente.
En fait, il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Il y a de la technique, mais il y a de la pédagogie dans votre métier.
Exactement. Avant déjà d'attraper un poisson, il faut savoir pêcher, donc lancer une ligne, savoir monter une ligne, savoir mettre un appât au bout de l'hameçon, et puis savoir s'adapter. On a plein de techniques de pêche. Là, ce matin, on fait la pêche au toc, c'est la pêche traditionnelle des Pyrénées, la plus rapide. Et après, on va pêcher à la mouche. Alors là, il y a la pêche à la mouche, c'est plus technique. La pêche au leurre, enfin voilà, on s'adapte en fonction des milieux. Là, on fait de la pêche en rivière ce matin, on fait de la pêche en lac de montagne aussi, voilà.
Et on peut pêcher aujourd'hui, on peut pêcher en rivière, en lac de montagne, on a le droit de pêcher tout le temps et de tout.
Oui, alors après il y a une réglementation, hein. Pour pêcher déjà il faut une carte de pêche et ensuite il faut se renseigner sur la réglementation en vigueur. Donc ça, le mieux c'est d'aller sur directement le site de la PPMA locale ou sur la Fédération des Hautes-Pyrénées pour voir si c'est pas en réserve de pêche. Il y a des parcours des fois qui sont autorisés qu'à une certaine technique. Ça, le mieux c'est de se renseigner sur internet ou auprès des offices de tourisme.
Qu'est-ce qu'on pêche ? La truite des Pyrénées, mais peut-être pas seulement ?
Ouais, on pêche pas le saumon ici encore. Non, on a que des truites, hein. Que des salmonidés du moins. Dans les lacs de montagne, on va trouver des ombles chevaliers, des saumons de fontaine, des christivomers sur certains lacs. Et sinon, après, dans tous les ruisseaux, toutes les rivières, on va avoir de la truite fario, sauvage ou des poissons qui ont été introduits pour aussi amuser les gens et qu'ils puissent attraper des poissons plus facilement.
Alors on se dit comme ça que pour pouvoir pêcher, pour avoir le droit de pêcher, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Or là, le Rioumajou, on voit qu'il n'y a pas énormément d'eau ce matin. Sans doute que ça, c'est pas tout à fait normal. Ça n'empêche pas de pêcher.
Alors non, là on est sur effectivement on est sur des niveaux du mois d'août. Ça fait un peu peur. Mais pour le moment, on a une eau qui reste encore assez fraîche. On a une eau entre 13 et 14 degrés qui nous permet de pratiquer la pêche dans de bonnes conditions, malgré qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau. Là, on est sur des rivières naturelles, c'est des sources qui alimentent la rivière. Donc effectivement, on voit baisser l'eau à vue d'œil. La neste d'or ou la neste du Louron, ça, c'est géré par des barrages. Donc on ne voit pas d'influence de niveau d'eau. Ouais, c'est le niveau d'eau, il est stable depuis le printemps et il lâche l'eau petit à petit. Donc on a une eau qui est à 12 degrés. Donc pour le moment, on peut pratiquer la pêche sans souci encore dans les Hautes-Pyrénées, parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup d'endroits où la pêche a fermé, ou même où il y a les rivières qui sont complètement asséchées.
Et on voit des poissons morts, d'ailleurs.
Voilà, ils font des pêches électriques, des pêches de sauvetage pour récupérer les poissons et leur donner la vie ailleurs en espérant qu'ils ne meurent pas.
Donc on n'en est pas encore rendu là, ici, dans la vallée du Rioumajou ?
Non, on n'en est pas là, heureusement. Ouais, j'espère encore pratiquer ma passion pendant quelques années. Donc pour le moment, ça va et on espère qu'il va pleuvoir rapidement.
Alors, vous parlez des sources qui alimentent cette neste du Rioumajou. Ces sources-là, elles ne sont pas alimentées par les neiges qui ont été quand même assez abondantes cet hiver ?
Non, alors la neige, oui, bien sûr, elle a rempli les nappes, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fonte, la neige, elle coule, elle part dans la rivière et puis et l'eau est partie, quoi. Donc ça a coulé au printemps et on se retrouve là avec un niveau d'eau qui baisse sans arrêt, et là, on est comme si on était au 20 août alors qu'on est début août, quoi.
Alors, la pêche, c'est votre passion. C'est une autre chose que d'avoir la patience pour transmettre. Ça aussi, c'est devenu votre passion de recevoir des groupes, d'organiser des sessions pêche.
Mais c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 3 ans. J'ai 31 ans et j'ai toujours aimé être les pieds dans l'eau. Et voilà, j'ai toujours aimé aussi faire attraper des poissons à des copains ou à des gens. Donc, ça me semblait normal de continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai passé mon diplôme. C'est un diplôme qui dure un an. Aujourd'hui, je suis éducateur sportif, moniteur guide de pêche, diplômé depuis 7 ans. Et j'amène des gens débutants jusqu'à des gens confirmés à la pêche. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais tenu une canne à pêche et qui ont 4 ans. Ça peut être des enfants comme des gens un peu plus âgés. Et après, j'ai des gens qui pêchent déjà beaucoup. Et là, on vient les perfectionner, leur faire découvrir un milieu des fois un peu sympa dans des gorges, etc. Les amener dans des lacs de montagne pêcher la truite. Et là, on vient vraiment dans le détail. Voilà, donc on s'adapte à tous les publics.
Et vous aimez travailler avec tous ces publics-là ?
Ouais, alors il faut un peu de patience parce que des fois avec les plus jeunes, on fait beaucoup de nœuds. Donc on est fait beaucoup de nœuds, mais ça va, j'arrive à travailler ma patience.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire comment on prend contact avec vous ? Comment on vous trouve ?
Eh bien, sur Internet, on va pouvoir me trouver sous mon nom, Damien Toussaint. J'ai un site Internet, pêchepyrénées-saint-lary.com. Et on peut prendre contact dès aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler pour vos séances de pêche de cet été ou de l'année prochaine.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je m'apprête à laisser derrière moi le Frédancon pour grimper sous les pins et sapins jusqu'à l'hospice du Rio Majou. Quand je passe devant des ânes, et ils ne sont pas là par hasard, ils font partie du décor pour le plus grand plaisir des familles. C'est ce que m'explique rapidement leur propriétaire.
Alors, moi c'est Fabien, je suis ânier, puisqu'on dit ça. La personne s'occupe des ânes au Rio Majou. Depuis une bonne dizaine d'années, je suis là avec cette année 19 ânes qui travaillent, qui font des balades.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la race de ces ânes ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?
Ouais, alors c'est l'âne gascon des Pyrénées. Et la particularité, c'est la robe noire avec le dessous du ventre blanc et le museau blanc. Voilà, ce sont des petits ânes trapus adaptés au portage pour aller marcher en montagne.
Donc dessus, sur ces ânes, on peut mettre éventuellement des sacs, du matériel et puis des enfants, peut-être pas des adultes.
Non, pas des adultes. Moi, je limite à 35 kilos pour préserver un peu leur santé générale, puisqu'ils travaillent tous les jours juillet-août. Et effectivement, dessus, on leur met un bas pour éventuellement mettre des sacs ou des enfants à partir de 3 ans.
Voilà. Et donc, vous laissez les randonneurs, les promeneurs partir comme ça avec leur âne. Il n'y a pas besoin d'être expert ou expérimenté dans la gestion d'un animal.
Non, pas du tout. Bon, les ânes sont vraiment habitués à faire tous les sentiers ici. Il y a 3-4 circuits ici qu'ils connaissent parfaitement. Et donc, avec quelques explications au départ, les personnes peuvent partir avec.
Alors, quand ces ânes ne se promènent pas avec les touristes, est-ce qu'ils sont là aussi pour entretenir les pâturages ? Est-ce que c'est ça aussi leur fonction ici au Rio Majou ?
Oui, tout à fait. Ils sont à l'estive. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent ici, comme les autres animaux, les vaches ou les brebis, de début juin à, ça dépend de l'année, mais début octobre ou mi-octobre.
Voilà, et donc, ils font partie de cette zone pastorale.
Exactement.
Ouais. C'est un animal qui se complaît avec les autres animaux ?
Alors, chacun fait sa vie de son côté, mais ça se passe très très bien, oui.
Vous en avez combien là en tout ?
19.
Et qui sont donc tous là, tout l'été ?
Exactement, tout cela tout l'été. Voilà, alors les 19 ne travaillent pas parce qu'il y a des jeunes et puis il y a aussi quelques-uns qui sont à la retraite maintenant. Mais en tout cas, ils sont tous là à la montagne pour l'été.
Qu'est-ce qui plaît dans cette proposition que vous faites aux familles ? Alors, je ne sais pas si vous visez que les familles, mais qu'est-ce qui fait que on aime se promener avec un âne ?
Je pense que c'est le caractère surtout de l'âne qui est très calme, très curieux, très social, qui aime beaucoup l'attention. Voilà, et puis effectivement, ça plaît aux familles parce que ça permet aux enfants de, de faire une première approche avec la marche en montagne, voilà, un peu de motivation.
Oui, c'est plus facile. La carotte des enfants, c'est l'âne en fait.
Exactement, c'est l'âne, la carotte des enfants, pour pouvoir marcher un peu, débuter à la montagne.
Petite question plutôt pratico-pratique, est-ce qu'il faut réserver, combien ça coûte, est-ce qu'il faut prévoir un temps de randonnée plus long quand on est avec un âne, ou au contraire, est-ce que ça raccourcit le temps de marche?
Alors non, ça marche tranquillement, donc il faut peut-être prévoir un peu plus long que si on marchait tout seul. Il vaut mieux réserver, oui, c'est sûr. Là, nous sommes en pleine saison, donc il vaut mieux réserver. Et après, à la journée, par exemple, pour être tranquille et pas se presser, c'est 46€ pour un âne.
Et donc, pour réserver, comment on vous trouve ?
On a le numéro de téléphone ici à l'Office du Tourisme, aussi, sur les fascicules de l'Office du Tourisme.
Voilà, donc l'Office du Tourisme Saint-Lary, c'est toujours quand même le lieu central pour toutes ces activités.
Exactement.
Merci beaucoup, bonne continuation, bonne journée et bel été.
Merci à vous.
Ce reportage vous a conduit aux portes de la vallée du Rio Majou. Non loin de là se trouve une autre vallée, elle aussi mise à l'honneur dans la célèbre chanson d'Edmond Duplan, Le Berger d'Or. C'est évidemment le Mudang, et nous irons à sa découverte dès demain.